Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant TGS Spring Break avec le grand, l'immense David Kruger. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Comme promis, on continue de vous dérouler les interviews que nous avons vécues au TGS Spring Break ce 13 et 14 mai. Et quelle rencontre! Alors, j'avais déjà rencontré David Kruger sur un festival, Les Voix d'Étoiles. J'avais passé un excellent moment. D'ailleurs, on avait vu ensemble le film Crypto. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Avec un chien, c'était vraiment super sympa. Le chien de Superman, il faisait la voix. Et voilà, il avait vécu ce moment puisqu'il n'avait jamais vu le film dont, où était Crypto. Et franchement, on a passé un excellent moment. Sur ce festival aussi, j'ai entendu sa voix puisqu'on avait des soirs où on passait du temps avec les artistes. Et quel moment où il y en avait qui se mettaient au piano et on entendait des petites voix. Et là, David avait poussé la chansonnette et franchement, j'avais vraiment été admirative. Et c'est vrai qu'à cette occasion, je n'avais pas eu la chance de pouvoir faire son interview, mais les choses sont remises en ordre. Et j'ai pu, grâce au TGS Spring Break, faire l'interview de David Kruger et passer un excellent moment avec lui. David Kruger, mais qui c'est ? Ben David Kruger, c'est un grand comédien, un grand acteur. Et c'est la voix, ben oui, la voix de Dwayne Johnson dans la saga, le spin-off Fast and Furious, dans beaucoup de choses. Ou Chris Pratt dans Les Gardiens de la Galaxie, dans la saga Les Gardiens de la Galaxie, dans Marvel, dans pas mal de films Avengers. Mais c'est également la voix française de Shemar Moore. Ah oui, chez Marmour. Je pense que les filles, vous êtes d'accord, vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est lui la voix de chez Marmour dans Un Esprit Criminel ou dans SWAT ?» Et oui, c'est lui. Et c'était un immense plaisir de le rencontrer parce que c'est un homme tellement adorable, tellement sensible, généreux, qui vit les choses vraiment à fond. Et de vivre cette interview avec lui, c'était que du bonheur.
On s'était croisés à Voix d'Étoiles. Super festival, et là on se retrouve au TGS Spring Break.
C'est vrai, à Voix d'Étoiles, c'est vrai, tout à fait. Oui.
Alors, ta première journée ?
Bah, toujours magnifique, c'est toujours chouette de rencontrer plein de gens comme ça. Ouais, vraiment. C'est toujours agréable d'entendre pendant des heures et des heures qu'on est le plus beau, le plus fort, le plus merveilleux, le plus extraordinaire. C'est toujours très, très sympa. C'est bah, voilà, faudrait être... Mais mis à part ça, et cette flatterie d'ego, passionnant de rencontrer des gens voilà, avec leur vie, leur vécu, et qui viennent partager, en fait, avec toi, ce qu'ils ont vécu aussi grâce à toi, à travers les films, les jeux et tout ça. Et moi, j'adore, parce qu'on se contacte avec les gens, il est primordial. On est dans une époque où, malgré tous les moyens de communication, je trouve qu'on ne communique pas si bien que ça et pas autant que ça. Donc, ces rendez-vous comme ça, de convention, permettent un contact qui est plus sain quelque part, parce qu'on est vraiment avec les gens, on interagit vraiment avec eux, et de ce point de vue là c'est passionnant, ouais. C'est passionnant.
Alors, biberonné à Louis de Funès.
Oui,
j'ai vu ça.
Oui.
Le film que tu pourrais ne pas oublier de Louis de Funès, ce serait lequel?
Il y en a beaucoup. Bien sûr, La Grande Vadrouille, bien sûr, Le Corneau, bien sûr, Oscar, qui est merveilleux, Pouic-Pouic, enfin, il y en a plein.
Les gendarmes ?
Oui, les gendarmes, alors pas les derniers avec gendarmettes, oui, extraterrestres, etc.
Sincèrement, le premier, c'est pas... le gendarme de Saint-Tropez.
Mais c'est vrai que le premier, gendarme de Saint-Tropez, est formidable. Parce que le reste, après, bon, à New York, avec les gendarmettes, avec les extraterrestres.
Il devait y en avoir d'autres. Hein.
Oui, mais De Funès était déjà très vieillissant pour ces gendarmes-là, déjà, je crois. Et il me semble. Et donc, bon. Oui, mais s'il y en a plein, il y en a plein. Et oui, je suis très. La folie des grandeurs, voilà, enfin, tu vois, il y en a plein.
Ah ouais.
Mais je suis très fan de De Funès, oui.
Mais
très
je suis d'accord, moi je peux pas choisir non plus.
Non, mais c'est dur de choisir, vraiment. Je suis très fan de De Funès parce que d'abord j'adore son personnage, qui est voilà. Et puis le tatoué, parce que je pense au tatoué là tout à coup, ou Hibernatus.
Ah, oh, Hibernatus.
Il y en a plein. Mais ouais, non, mais ce que j'aime beaucoup, c'est sa faculté de rupture de jeu. Mmh. C'est quelque chose qui me passionne, qui n'est pas évident à faire, et que lui, il maniait d'une manière tellement fabuleuse. Non, j'adore De Funès, oui. J'adore De Funès.
Ouais. Est-ce que c'est lui qui t'a donné envie d'être dans l'acting?
Non. Enfin, ou alors inconsciemment, peut-être. Mais j'ai beaucoup aussi regardé mon beau-père aimait beaucoup les comédies musicales américaines des années 40-50. Et même peut-être un peu avant, d'ailleurs. Les années 30, tout ça, enfin bref. Et j'ai été biberonné, pour le coup, aussi aux comédies musicales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand j'ai choisi de faire ce métier, dans les 5 premières années, je faisais 15 heures de danse par jour et de chant.
Et de chant.
Voilà, donc j'ai fait des claquettes, j'ai fait du jazz, j'ai fait du classique. J'ai pris des cours de chant et je voulais me former le plus possible à tous ces arts pour être le plus complet possible. Mais j'ai été un peu en avance, en France en tout cas, parce qu'aux États-Unis par exemple, en Angleterre, ça existait depuis longtemps. On l'a vu de ces années 70-80 avec la série Fame. Mais moi, je sais que quand je passais des castings à l'époque, que j'avais 20 ans, 25 ans, sur mon CV, il y avait écrit, ben voilà, danse, chant, blablabla, ça, et ça, et ça. Et les gens me disent, mais vous faites quoi? Vous êtes qui? Vous faites quel métier? Je dis, ben je sais pas, je me forme au maximum de choses. Ah oui, mais on sait pas ce que vous faites, alors écoutez, c'est pas simple. Vous êtes danseur, chanteur, comédien, vous êtes quoi? Et il se trouve que 15 ans plus tard, voilà, ben en France se sont montées plein d'écoles dites de comédie musicale avec justement tous les arts qui étaient travaillés, que le conservatoire a commencé aussi à faire de la danse, à faire du chant, enfin, ce qu'il ne faisait pas forcément avant. Et puis donc il y a eu plein d'écoles de comédie musicale qui se sont montées où on apprenait justement la comédie, le chant, la danse, le machin, les arts, les escrimes, enfin voilà, on faisait un cursus vraiment total. Donc bon, J'ai été un peu en avance. Puis quand il s'agit d'utiliser tout ça, bah j'étais devenu un peu trop, entre guillemets, vieux. Et les jeunes qui arrivaient, 19 ans, 20 ans, et qui, eux, faisaient ces écoles-là, bah évidemment, ils avaient physiquement plus la pêche que moi. Et donc,
ouais.
Voilà. Mais c'est pas grave. J'ai adoré cette période et j'ai adoré faire tout ce que j'ai fait.
Voilà. T'as pas pu faire une voix dans un dessin animé? T'aurais voulu chanter une chanson?
Oui, oui.
Et donc ça te plairait? De pouvoir allier le chant et le doublage, ou même...
Le film dont tu parles, c'est Vaiana.
C'est Vaiana, oui.
Ils ont pris...
un star talent.
Oui, c'est plus qu'un star talent, c'est quelqu'un qui est connu depuis longtemps maintenant. C'est... merde. Son nom m'échappe. Ça va revenir. Et ils lui ont fait faire le rôle de Manson, il a chanté, etc. Tout ça. Donc ils ont pris effectivement quelqu'un connu, bon... J'aurais adoré faire ce rôle, j'aurais adoré effectivement chanter les chansons, la chanson dans ce film. Mais je l'ai déjà fait, je l'ai fait dans Planes, il me semble. J'ai participé à une chanson, j'ai chanté la chanson du pirate dans Réponse.
Ah, Ah bah là, tu vois, je ne le savais pas.
Bah voilà. Donc, j'ai pas enregistré le rôle.
Ouais.
J'ai pas enregistré le rôle. Ils avaient pris un comédien pour enregistrer le rôle. Alors peut-être que le comédien, je sais pas pourquoi ils m'ont appelé moi pour le chant. En tout cas, voilà, il se trouve que j'ai fait la chanson, rien que la chanson. Mais ça m'est arrivé déjà de chanter, voilà, pour des dessins animés, tout ça. Mais oui, j'adore faire ça. J'adore faire ça.
Et te retrouver sur une comédie musicale ?
Ça m'est arrivé en 96, dans un spectacle qui s'appelait Mayflower, qu'on a joué au Bataclan, uniquement pendant 2 mois et demi, 3 mois, parce que le spectacle s'est arrêté fin mars, on avait commencé mi-janvier, un truc dans le genre, il me semble. Déjà parce qu'un des comédiens est décédé, Marc de Jonge, et il est mort le 9 ou 10 mars 96. Et donc déjà ça a miné beaucoup la production, et puis on a continué quelques semaines et puis ça s'est arrêté. Mais c'est pareil, là on était un peu en avance. C'est-à-dire que Mayflower, c'est un super spectacle, vraiment, vraiment, avec une belle équipe, belle ambiance, mais on ne remplissait le Bataclan qu'au tiers. Il y a environ 900 places, disons, hein, pour à la louche. Et on faisait 300, 320, 330 entrées par soir, donc c'était pas génial. Et au même moment se jouait d'ailleurs un spectacle sur Piaf, il me semble, dans mon souvenir, au cirque couvert Bouglione, là, juste derrière,
oui,
à Paris.
Je sais.
Cirque d'hiver. Et puis voilà, et puis un an et demi après, sont sorties les grosses comédies musicales, Notre-Dame, etc., etc., et qui ont fait un carton, le carton que l'on sait pendant des années. Et donc voilà, Mayflower, pareil, a été un peu précurseur d'un renouveau musical, mais n'a pas eu le succès, je ne sais pas ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Et puis un an plus tard, je te dis, il y a un an et demi plus tard, il y a les gros spectacles qu'on sait qui se sont joués. Tant mieux pour eux et tant pis pour nous. Voilà.
Les Gardiens de la Galaxie 3 sont sortis.
Ouais, ouais.
Prête ta voix à Chris Pratt.
Ouais.
Star-Lord.
Ouais.
Est-ce que tu l'as vu le film en entier ?
Non,
non, pas encore ?
Pas encore.
Prépare les mouchoirs.
Bah, vu les scènes que j'ai enregistrées, oui, je pense qu'il faut que je prépare les mouchoirs, mais je vais être très ému, parce qu'en plus, je suis un hypersensible, moi. Je suis très émotif. Et je rigole, je râle, je pleure, je fais tout ça très très vite. Je suis hypersensible et je réagis au quart de tour. Alors ça peut avoir des choses, ouais, ça peut être, ça me rapporte pas que du bien d'être comme ça. Mais bon, voilà, je suis ce que je suis, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Donc oui, je me prépare à ressentir beaucoup d'émotions, ouais, ça c'est clair. C'est clair. Mais j'ai eu un aperçu parce qu'encore une fois, j'ai fait des scènes.
Eh ben oui, mais oui, quand même, pas
j'ai,
tout.
J'ai fait certaines scènes où j'ai bien vu qu'il y avait des choses un peu tendues. Bon, mais je verrai bien. Mais j'ai très envie de le voir, ouais. Très envie de le voir.
Ouais. Ah, il est très beau.
Ouais, il paraît, oui.
Ouais, ouais.
Il paraît.
Ouais. Belle réussite pour la trilogie, la fin.
Oui, il paraît. Ouais. En plus, il paraît aussi qu'il y a. Quand on va vraiment au post générique.
Oui.
Il paraît qu'il y a un petit carton à la fin, tout coucon, tout bête, écrit noir sur blanc, qui dit un truc du genre « Le légendaire Star-Lord sera bientôt de retour ».
C'est ça.
Et j'ai un copain ou une copine, je ne sais plus, qui a fait un screenshot, qui a fait une capture d'écran, une photo de ça, et qui m'a envoyé ça en me disant « Hop, 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 regarde !» J'ai fait « Ah, intéressant !» Intéressant, chouette, youpi !
Bonne nouvelle !
Bonne nouvelle. Ouais, non, c'est sympa, c'est sympa. Alors qu'a priori, tout le monde imaginait que ça puisse être la fin, tu vois, des aventures de... Voilà. Mais bon.
Après, il peut revenir dans un autre.
Il peut revenir dans un autre, il peut revenir dans une série, pourquoi pas. Il peut revenir dans plein de choses.
C'est très ouvert maintenant.
C'est très ouvert.
Marvel, ils font des séries. Ils font,
C'est pour ça. C'est
ça te plairait, ouvert. Une série, justement
sur, oui. Moi, je sais qu'il y a mon ami Alexis Victor qui fait Rocket et Loki.
C'est vrai.
Qui a eu cette chance... Parce que pour moi, c'est une chance de suivre son personnage de Loki sur une série. Voilà. Et ça, c'est vachement passionnant.
Bah, tu l'as fait avec Halo. Avec le jeu
alors,
vidéo.
Je l'ai fait avec,
et
effectivement,
la
avec Halo, tout à fait. Mais voilà, donc là, il a, et s'il y avait une série un peu comme Loki qui, sur Star-Lord, c'est quand ils veulent. Hein.
C'est du pain béni.
C'est quand ils veulent. C'est quand ils veulent. Ah oui, vraiment. Bon, on verra bien. Je n'ai pas envie de, tu vois, de faire de plans sur la comète, mais...
Pour finir, on a parlé du théâtre tout à l'heure.
Oui.
Ça fait 6 ans que...
Oui, 6-7 ans, ouais. Que je n'ai pas monté sur les planches. Ouais.
T'as très envie. Quel rôle, on parlait de Shakespeare, mais quel
non,
rôle...
Non, mais je dis Shakespeare parce que dans Shakespeare, il y a des personnages hauts en couleur, avec des... Parce que moi, en général, avec mon physique, ma gueule et mon énergie, en général, on me donne des rôles de méchants, de gens agressifs, à l'esprit tordu... vindicatif, nerveux, enfin voilà, on me donne, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais on me donne beaucoup ces personnages-là à faire. Et c'est vrai que tout de suite, dans Shakespeare, il y a des personnages qui sont comme ça, très haut en couleur, très vite, quoi, tu vois. Voilà, non, mais ça me manque énormément. Être sur les planches, être au théâtre, jouer avec une équipe, répéter, toute la période des répétitions est fabuleuse. C'est vraiment un moment exceptionnel, les répétitions. D'abord parce que chacun se cherche, tout seul, dans son personnage, fait des tentatives, dans son interprétation, commence une phrase, et puis, le lendemain, dit la phrase différemment, puis à un moment donné, la coupe différemment, donne des césures dans sa phrase, des respirations différentes. Puis à un moment donné aussi, c'est là où c'est génial, le théâtre, c'est que tout le monde fait ça, puis tout le monde, tu interagis avec d'autres comédiens ou comédiennes. Donc le comédien ou la comédienne qui est en face de toi va t'apporter une énergie et va, toi, tu vas devoir réagir non seulement, bien évidemment, à la situation par rapport au texte, par rapport à l'histoire, etc., mais aussi à l'énergie que l'autre te donne. C'est-à-dire que c'est très con dans la vraie vie. Si quelqu'un te gueule dessus, ton énergie de réponse... va être à la mesure de ce que tu reçois comme gueulante sur toi. Si quelqu'un te parle très doucement avec une voix douce, etc., tu ne vas pas lui répondre en gueulant, tu vas lui répondre avec une énergie qui correspond à la sienne. Et les deux vont communiquer comme ça, en ayant une énergie comme... Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
et
je
c'est
comprends.
Pour ça, dans les histoires d'amitié, mais aussi particulièrement de couple, d'amour, dès qu'il y a une engueulade, s'il n'y en a pas un qui se calme pour calmer le truc, ça monte, et c'est une surenchère pas possible, parce que l'énergie de l'un répond à celle de l'autre, qui répond à celle de l'un, qui répond à celle de l'autre, et voilà. Donc au théâtre, c'est ça qui est génial, c'est que, et c'est ça peut éventuellement un peu changer, évoluer, tous les soirs, quand on joue. Mais quand on répète déjà, on se dit, ah d'accord, son énergie c'est ça, je vais apporter ça, je vais lui répondre ça. Et puis l'autre, en fait, reçoit ton énergie, et fait, ah ouais, c'est intéressant, voilà. Donc il y a ça. On peut laisser des silences aussi. Tu commences une phrase et l'autre, forcément, attendant que tu finisses ta réplique, va devoir interagir avec ce silence que tu lui offres. Et dans l'inverse, c'est vrai. C'est absolument passionnant. Et quand on joue chaque soir, bah dans nos vies, j'allais dire profanes, de tous les jours, on a mal digéré un truc le midi, on a éventuellement, pour les filles, on a ces ragnagna, et c'est vraiment pas un moment qu'on aime, et ça nous, tu vois, c'est, tout ça va jouer, tu vois. On a quitté son mec, on a quitté sa meuf, un père est mort, son chien est malade, tu vois, on n'a pas fait des câlins et des galipettes depuis 15 jours, on n'en peut plus, enfin, tu vois, on a appris une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, enfin, quel que soit ça interagit forcément. Tu arrives, même si, a priori, tu es laissé censé tes problèmes et ta vie, dans le vestiaire, dans les loges, et arriver sur scène avec vraiment que ton personnage, inévitablement, en tout cas c'est mon point de vue, inévitablement, il y a une part de toi, toute petite, infime, mais qui va jouer, qui va être un tout petit truc, un tout petit, voilà. Et donc, tu vas dire ton texte a priori de la même manière que les autres fois, que les répétitions et que les autres soirs où tu as joué, mais il y a une bonne nouvelle qui fait que ton énergie va être un peu plus lumineuse. Disons. Et puis si jamais tu as eu une mauvaise nouvelle, ton énergie va être la même, mais un chouïa plus sombre. C'est infime, hein, ça se sent pas. Les gens dans la salle vont pas forcément le sentir. Mais toi qui es, ou alors il faut vraiment qu'ils te connaissent. Et là, ils le voient tout de suite. Mais toi, quand tu es sur scène en face de cette personne qui a eu un truc positif ou négatif et qui vient avec un petit bagage comme ça, même infime, qui vient avec ce petit bagage-là, toi, tu es le partenaire, ça fait 3 semaines, 1 mois, 2 mois que tu répètes, ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours que tu joues en face de cette personne, et là, tout à coup, cette personne-là te sort un truc, et toi, dans ton fort intérieur, tu te dis, oh putain, il y a un truc là. Je sens que c'est pas la même énergie, il y a quelque chose. Donc forcément, tu vas aussi réagir toi-même à cette énergie un peu changeante. C'est extraordinaire, c'est du spectacle vivant, et c'est pour ça que c'est beau d'ailleurs, c'est que c'est du spectacle vivant. C'est vraiment le vivant, on réagit, on se parle, on s'adresse l'un à l'autre. Et on est et des personnages, et en même temps nous-mêmes, et en même temps, parce que c'est extraordinaire. Le théâtre me manque infiniment. Voilà. On doit s'adapter chaque soir à ce qu'est l'autre. En tant qu'humain, en tant que profane, et en tant que comédien, comédienne, avec son texte, et que personnage. Voilà. Voilà. Et c'est fabuleux. Le théâtre, c'est fabuleux. Et ça me manque beaucoup. Oui, ça me manque vraiment beaucoup.
Est-ce que j'ai le temps d'une dernière question?
Tu as tout le temps. Tu as tout le temps les clés, on fermera nous-mêmes la porte. On a les clés du palais, du festival, il n'y a aucun souci. Vas-y, on fermera tout.
Merci
d'être. On dort ici s'il faut. On se fait livrer la bouffe.
Je te vois souvent avec un appareil photo.
Oui.
Je vois des photos.
Oui.
Je sais que
oui.
Tu as cette passion-là.
Oui.
À quand une expo?
J'en ai fait quelques-unes. C'est très compliqué de faire une exposition. Mmh. Parce qu'il n'y a pas forcément les lieux. Quand il y a les lieux, généralement, très souvent, malheureusement, les lieux te demandent de les payer pour rester une semaine, 15 jours, machin, et ça vaut très cher. Qu'en plus, maintenant, il y a le problème... Oui, pour moi, c'est un problème quand même. C'est que la photo, depuis 10-15 ans, avec les portables, machin, c'est totalement démocratisé. À tel point que au New York Times, je crois, il y a une petite dizaine d'années, ils ont, si ce n'est viré, en tout cas remercié beaucoup de leurs photographes qui ne faisaient que de la photo pour le magazine, pour le journal. Alors, dit non, c'est bon, les intervieweurs, les journalistes pourront eux-mêmes prendre leur iPhone et prendre la photo, machin. On se démerdera, on traficotera ça avec Photoshop, t'inquiète pas. Donc maintenant, il n'y a plus de photographes, tu vois, il y en a de moins en moins. Qui a du matériel à 10 000 balles, 15 000 balles, parce que voilà, un simple iPhone ou portable, tu prends une photo, pourvu que tu la cadres un petit peu bien, les gens vont aller. Voilà, donc le métier de photographe a beaucoup perdu de son intérêt, malheureusement, puisque tout le monde peut faire des photos, et qu'on a tous 2 000, 3 000 photos sur nos appareils photo. Après, tu me diras, oui, il y a les gens qui ont un œil un peu différent. Et qui vont pas seulement prendre des photos de leur assiette et de ce qu'ils bouffent ou de leur chien en train de faire des galipettes dans l'herbe. Voilà, mais qui. Voilà. Donc, et puis il y a des photographes fameux quand même. Hein. On en voit beaucoup. Moi, je regarde beaucoup de pages Insta, de pages Facebook, même je vais sur Internet et je cherche des grands noms de photographes de plus de différentes époques. Je vais voir un petit peu ce qui se fait. Voilà.
C'est
difficile de parler de moi et de mon travail en photo. Je sais que j'ai la couleur, c'est pas ce que je gère le mieux. Donc peut-être un peu par facilité, je l'avoue.
Je
suis passé au noir et blanc. Par facilité, et maintenant je me rends compte quand même, il m'arrive de faire des photos en couleur encore, quand je fais des photos de concert, des photos de spectacle. Mais il y a une... Pour moi, malgré tout, il y a une profondeur dans le noir et blanc j'adore photographier les gens.
Je t'ai vu tout à l'heure sur la conférence
mais partout dans la rue, partout. J'adore les portraits, j'adore ça, et je trouve que le noir et blanc est plus révélateur que la couleur sur l'intériorité des gens. Alors c'est peut-être ce que moi je veux y mettre, peut-être, cette recherche-là, mais c'est ce que je trouve. Et puis là, il y a tellement de nuances dans les gris, dans les noirs, et puis on peut faire plein de choses, c'est-à-dire qu'on peut mettre plus de blanc, moins de blanc, plus de luminescence, moins de luminescence, plus de contraste, moins de contraste, et déjà rien qu'avec ça, on fait des choses étonnantes. Et j'y trouve mon compte. Voilà. Et puis en même temps, voilà, développer une photo. Moi, la dernière fois que j'ai fait une petite expo, qui a duré un week-end, donc c'était très rapide, j'ai tiré 12 photos en 50 par 50, avec une petite marge blanche de 2,5 cm de chaque côté. Donc il me fallait que j'ai acheté 12 cadres en 60-60 que j'ai fait livrer. Plus tous mes tirages que j'ai faits, qui n'étaient pas trop chers. J'ai un labo à Lille qui n'est pas trop cher, mais quand même, ça vaut de l'argent. Et moralité, entre les cadres et les tirages, j'en ai eu pour 900 balles, 800 balles pour 12 photos. Donc si je devais, moi j'aime bien les grands tirages, Voilà, 50-50 pour moi c'est le minimum. Mais j'aime bien les 1 mètre sur 1 mètre, j'aime bien là. Le format carré, j'aime beaucoup aussi, parce qu'on va à l'essentiel. Vraiment, c'est un peu comme l'idée de Léon, tu sais, de Besson,
ah oui.
Où il explique à la jeune gamine, il lui dit, voilà, quand tu commences un contrat, tu commences au fusil. Et plus tu avances dans la profession, plus tu te rapproches de la cible et tu finis au couteau. Voilà, et ben c'est un peu ça. Au départ, je faisais des grands angles, je faisais du 16-9e, j'adorais que mes photos soient très grandes, très larges, très machin. Et plus ça va, plus j'aime me concentrer. J'ai réduit mon cadre, j'ai réduit mon approche, j'essaie de me rapprocher des gens de plus en plus. Voilà, bref, mais ça vaut cher. Ça vaut cher. J'ai des idées, j'ai plein d'idées dans ma tête. J'ai plein d'idées dans ma tête en photo. Voilà, j'ai particulièrement une photo. Je sais que je la ferai, et dans pas longtemps en plus. Je sais que je la ferai, et dans pas longtemps. Et cette photo-là, c'est une vraie volonté de ma part. Je la ferai tirer en très grand. Mais quand je dis très grand, c'est limite du 130 sur 180, quoi.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Ah oui.
En très grand, et je la ferai tirer sur un papier le meilleur du monde, avec le meilleur tirage du monde, avec la meilleure définition. Je mettrai ça dans une caisse américaine, je mettrai un panneau de verre dessus, et une fois que la photo sera tirée, travaillée, et que j'y aurai passé tout le temps, je jetterai le fichier pour que la photo ne soit plus jamais refaite. Elle sera unique au monde. J'ai déjà le titre de la photo et je sais déjà ce que ça va être. Ça serait une photo unique.
Mm-hmm. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce moment.
Merci beaucoup à toi. C'est chouette.
C'était génial.
C'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.
Un moment fort de partage, c'est sûr. Ce David Kruger, et ben voilà. Il ne met pas les petits plats dans les grands, non. Il dit les choses comme elles sont. Et j'aime sa franchise, j'aime sa façon de parler. J'aime son côté hypersensible à vivre les choses à 100%. C'est lui, c'est tout lui. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est de le voir au théâtre. Parce que je pense que ce grand monsieur va nous emporter. Comme ça fait longtemps qu'il n'est pas monté sur les planches, moi... Je dis qu'une chose, je croise les doigts, David, pour qu'on te propose un rôle à ta mesure. C'était Chaud Devant, TFGS Spring Break, avec l'interview de David Kruger. Merci énormément, David, pour ce moment. Et merci pour tout ce que tu nous as raconté, pour ta gentillesse, pour ta générosité. Oui, je sais, tu n'aimes pas qu'on te dore le blason, mais j'ai très très envie de le faire parce que tu es un grand monsieur.